VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale du vendredi 25 février 2022, consacrée essentiellement à l'Ukraine et à l'invasion russe de ce pays. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Eric Maniakis.
L'Ukraine, où des combats meurtriers opposent forces russes et ukrainiennes jusqu'aux portes de Kiev, a annoncé la mobilisation générale pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par le président russe Vladimir Poutine. Des explosions ont également retenti ce vendredi, à l'aube, dans la capitale, Lionel Gahima.
De fortes détonations ont été entendues dans le centre de Kiev au lendemain du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur son compte Facebook, l'armée de terre ukrainienne a indiqué que des tirs de missiles visaient Kiev, précisant en avoir détruit deux en vol. Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, trois personnes ont été blessées, dont une grièvement par des débris de missiles tombés dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale ukrainienne. La progression de forces russes fait redouter un assaut de la multiplication d'attaques ciblées sur Kiev et des cibles stratégiques et gouvernementales. Selon des sources militaires occidentales, l'armée russe se rapprochait de Kiev, où un couvre-feu a été imposé avec l'intention de décapiter le gouvernement ukrainien et d'y installer à la place un gouvernement favorable à Moscou. Le gouverneur de la région de Soumy, dans le nord-est, cité par l'agence de presse Union, a déclaré que des engins russes sont partis de Soumy en direction de Kiev, beaucoup d'engins.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé ce vendredi le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civils et militaires, au moins 137 morts et 316 blessés. L'armée ukrainienne a estimé aujourd'hui les pertes matérielles russes à plus de 30 tanks, quelques 130 véhicules blindés de combat, 7 avions et 6 hélicoptères.
Les deux camps font des déclarations invérifiables, mais l'armée russe gagne du terrain. La centrale de Tchernobyl, théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, est tombée plus tard aux mains des soldats russes.
Afin de contrer l'invasion russe, le président Zelensky a décrété hier soir la mobilisation générale et le rappel des réservistes sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes. La veille, l'aéroport militaire d'Antonov à Gostomel, aux portes de Kiev, a été la cible d'une attaque de forces aéroportées russes arrivées en hélicoptère et qui ont affronter des unités de l'armée ukrainienne.
L'aéroport de Gostomel se trouve immédiatement à la limite nord de Kiev et les combats qui s'y sont déroulés étaient les plus proches de la capitale au premier jour de l'attaque russe. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président Zelensky a par ailleurs mis en garde contre la présence de groupes de saboteurs russes dans la ville et il a appelé les habitants à la vigilance et au respect du couvre-feu désormais en vigueur.
Les États-Unis et l'Union européenne ont répliqué à l'offensive russe par de nouvelles sanctions. Pour sa part, le président Zelensky a regretté que l'Ukraine soit laissée seule face à l'armée russe, alors que l'Alliance Atlantique a indiqué qu'elle n'enverrait pas de troupes pour la soutenir. Un sommet de l'Alliance Atlantique se déroulera en visioconférence ce vendredi et les forces militaires des États de l'OTAN ont été placées en état d'alerte et certaines unités vont faire mouvement pour renforcer le flanc est de l'Alliance pour éviter une extension de ce conflit à d'autres pays européens.
Les États-Unis et l'Albanie ont demandé un vote du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi à 20h GMT sur un projet de résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine et réclamant à la Russie le retrait immédiat de ses troupes. Mais on s'attend à un veto russe. Outre les nouvelles sanctions annoncées par le président Joe Biden et dont nous parlera tout à l'heure Abdourahman Dia, le numéro 2 de l'ambassade russe à Washington a été expulsé.
Dès les premières heures de la journée de jeudi, des habitants de Kiev se sont pressés dans le métro pour s'y abriter ou tenter de quitter la ville. Cependant, que des voitures remplies de familles fuyant la capitale créaient de vastes embouteillages. Environ 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine. Des milliers ont quitté leur pays, a déploré le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
Les habitants vivent donc dans la peur à Kiev. Presque tout le monde est terré chez soi ou dans le sous-sol à cause des bombardements russes. Eddie Sango a joint dans la capitale ukrainienne des Africains qui témoignent de leur situation.
J'étais stressée en ce moment-là. J'étais tétanisée, je ne savais pas quoi faire. Je disais à mon ami, mais que faire maintenant? Et après, il y a une dame qui est venue vers nous pour nous dire, arrangez déjà vos documents et tout, prenez quelques trucs à manger et tout. Et s'il y a le bombardement qui recommence là, on peut évacuer les lieux ensemble et aller dans de sous-sol. Je ne me sens pas encore rendue parce que là, vu qu'il n'y a rien, la situation est apaisante, voilà. On est encore là, on attend encore. Je suis dans l'université de Kiev, qui se situe à Kiev, Maup.
Si la situation perdurait, qu'est-ce que vous pensez faire pour votre sécurité?
Déjà, dès le début, je comptais retourner au pays, mais là, malheureusement, les aéroports sont fermés. Et du coup, là, je ne sais pas, on attend seulement les signes des autorités, de l'université, bien sûr.
Et vous avez peur pour vos études? Vous pensez que ça va être interrompu?
Exactement, surtout moi, avec le RI et tout, je me donne à fond dans un pays où la langue est difficile et tout, je me donne vraiment. Mais là, avec tous ces problèmes, cette situation qui dégénère, je ne sais plus quoi faire. Je me dis, bon, que Dieu nous aide seulement.
Gaël Ilunga.
En fait, je suis en dessous de l'université. L'université vient d'appeler tous les étudiants d'aller s'installer en bas pour la protection, en fait. Si en Ukraine, il y a plus de 1000 étudiants congolais, il y a une partie, en fait, qui reste ici à Kiev et les autres aussi qui restent dans des provinces, en fait. Moi, je suis à Kiev ici. Bon, moi, j'ai entendu des bruits, des bombes, des missiles, des grenades, en fait. Moi, c'est que j'ai vu même des avions qui sont venus ici à Kiev pour se bombarder, mais heureusement que l'armée ukrainienne a essayé un peu de défendre vraiment Kiev. Ils ont réussi à bombarder vraiment ces avions, en fait. Là, l'Ukraine vient se fermer même sur son espace aérien, en fait, c'est un peu difficile vraiment. Mais j'ai appris que la Pologne vient d'ouvrir, en fait, la frontière, de façon que les Ukrainiens puissent un peu aller là-bas et être un peu en sécurité, en fait, là-bas. Maintenant, je ne sais pas si la Pologne va accepter aussi que les Congolais puissent au moins traverser un peu et aller un peu là-bas.
Témoignage recueilli par Eddie Isango à Moscou. Des rassemblements contre la guerre ont eu lieu dans le centre de la capitale ainsi qu'à Saint-Pétersbourg. Près de 1400 ont été interpellés sur l'ensemble du territoire russe, selon une ONG.
C'est une attaque préméditée, a dit hier, dans un discours à la Maison-Blanche, le président Joe Biden. En réaction à l'invasion russe de l'Ukraine, il a donc annoncé une série de sanctions supplémentaires qui sont venues s'ajouter à celles déjà en place. Écoutons Abdulrahman Dia.
Sur un ton solennel, le président Biden a indiqué que 4 banques russes ont été ajoutées à la liste des institutions financières visées par ces sanctions. Parmi elles, la VTB, l'une des plus grandes banques de Russie. Autre annonce forte, plus de la moitié des importations technologiques de la Russie seront supprimées. Ces sanctions visent donc à limiter les exportations et les transactions financières russes. Concernant l'envoi de troupes de l'OTAN, Biden se veut clair. Il a réitéré que Washington défendra le moindre pouce de territoire de l'OTAN, mais n'enverra pas de troupes en Ukraine, qui n'est pas membre de l'Alliance Atlantique. Nos forces armées ne vont pas en Europe pour combattre en Ukraine, mais pour défendre nos alliés de l'OTAN et rassurer ses alliés de l'Est, a affirmé Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche a assuré que Poutine va devenir un paria sur la scène internationale et qu'il n'a pas prévu de parler avec le numéro 1 russe. Enfin, il a promis de tout faire pour limiter l'impact de la crise sur le quotidien des Américains avec le prix du carburant déjà élevé et qui est encore monté en flèche ce jeudi.
Outre le pétrole, qui a notamment franchi les $100 le baril, une première depuis 2014, c'était la tempête sur les marchés mondiaux, avec chute des bourses européennes et flambée des cours des matières premières. Pour la directrice générale du FMI, le conflit fait peser un important risque économique pour la région et le monde au moment où l'économie mondiale tente de se relever de la pandémie de Covid-19.
Parallèlement, aux États-Unis, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont pris des sanctions massives contre la Russie dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports, mais sans l'exclure dans l'immédiat de la finance et des transports, l'exclure dans l'immédiat du réseau bancaire SWIFT qui permet de recevoir ou d'émettre des paiements dans le monde entier. Le président iranien Ibrahim Raisi a lui estimé hier, lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, que l'expansion de l'OTAN était une menace grave. Le point avec Lionel Gahima.
L'expansion de l'OTAN est une menace grave pour la stabilité et la sécurité des pays indépendants dans différentes régions, a déclaré Ebrahim Raisi, selon un communiqué de la présidence à Téhéran. Un peu plus tôt hier, Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré que la crise ukrainienne trouvait ses racines dans les provocations de l'OTAN. Il a également affirmé que la guerre n'est pas une solution et a appelé à un cessez-le-feu pour trouver une solution à la crise. La République islamique avait déjà déploré mercredi ce que l'a appelé les interventions et les actions provocatrices de l'OTAN et des États-Unis. L'ambassade d'Iran à Kiev a appelé ses 4000 ressortissants vivants dans le pays à partir par tous les moyens alors que l'Ukraine a annoncé la fermeture de son espace aérien. Téhéran tente d'obtenir un permis spécial pour évacuer les Iraniens par la voie aérienne, a affirmé hier Saïd Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne.
En Afrique, l'Union africaine a condamné hier l'invasion russe en Ukraine et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Selon l'Union africaine, la situation risquait de dégénérer en un conflit planétaire. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'organisation, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils sont extrêmement préoccupés par l'invasion russe. Ils ont appelé Moscou à respecter le droit international, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de l'Ukraine. Ils exhortent par ailleurs les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations Unies. Des négociations qui permettraient, selon l'Union africaine, de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde.
La Banque de Russie a annoncé ce vendredi des mesures de soutien aux banques russes sanctionnées par les Occidentaux, dont les États-Unis. Elle est prête à soutenir les banques avec des roubles et des devises étrangères, précise-t-il, en affirmant que toutes les banques concernées ont une grande réserve de solidité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le médiateur ouest-africain pour le Mali, Goodluck Jonathan, a rencontré hier à Bamako plusieurs responsables de la junte au pouvoir, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Selon l'ancien président nigérian, c'était pour discuter de la route à suivre vers un retour à la vie civile.
Dans un document que l'AFP a pu consulter jeudi, un comité technique de la CDAO propose l'organisation d'élections dans un délai de 12 ou 16 mois avec l'aide d'une autorité indépendante de gestion des élections. Le scénario de 12 mois porterait donc la période de transition sous contrôle militaire, 30 mois depuis le coup d'État de 2020, au lieu des 5 années souhaitées par la junte.
Au Burkina Faso, le parquet militaire de Ouagadougou a annoncé hier avoir lancé des poursuites contre X après le massacre de 57 gendarmes lors d'une attaque en novembre 2021 à Inata, dans le nord du pays, massacre qui avait provoqué un électrochoc dans l'armée qui a pris le pouvoir il y a un mois.
En Guinée-Bissau, l'ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira, opposant au président, Oumar Sissoko Embalo, a estimé hier que sa vie était en danger. M. Pereira a interdit de quitter le pays, s'exprimait lors d'une conférence de presse à la suite de la publication mardi d'un communiqué du parquet général annonçant une mesure de coercition à son encontre.
Et en République centrafricaine, la remise en liberté sans poursuite hier des 4 militaires de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU, arrêtés il y a 3 jours en Centrafrique et accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le président Faustin Archange Touadéra.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la Russie et l'Ukraine, où Moscou a donc lancé une offensive militaire, malgré les mises en garde des Occidentaux et les efforts diplomatiques de ces dernières semaines. Qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN et les Occidentaux ? Abdulrahman Dia a posé la question à Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
La diplomatie a échoué. Les États-Unis, d'autres pays de l'Ouest, ont dit à M. Poutine que s'il fait une invasion, il y aura des conséquences très dures dans le domaine économique. Mais M. Poutine a ignoré ça. Il a fait l'invasion. Je crois qu'il cherchait une garantie que l'Ukraine sera jamais dans l'OTAN. Je crois que personne ne veut que l'Ukraine va dans l'OTAN, mais on ne peut pas donner des garanties.
Donc vous pensez que ce serait vu comme un signe de faiblesse de la part de l'OTAN de donner des garanties dans ce sens à la Russie?
Moi, personnellement, je ne crois pas que ça soit un signe de faiblesse. Par exemple, s'il y avait une interview d'un journaliste avec le président de l'Ukraine, il a demandé « Est-ce que vous voulez être membre de l'OTAN ?» Et le président pouvait dire, pour le moment, en fait, on va pas faire la demande. Mais nous avons le droit de faire la demande dans l'avenir. Mais pour le moment, non. C'est le nécessaire pour Poutine. Vous voyez, l'OTAN ne sera pas dans l'Ukraine. Mais ils ont refusé de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi.
Alors maintenant, que peut faire l'Occident ou l'OTAN face à cette nouvelle situation?
L'Occident, président Biden a promis d'appliquer des sanctions très dures dans le domaine économique et il a déjà commencé.
Mais on ne craint pas de risque de confrontation militaire directe entre l'OTAN et la Russie, ou bien il y a un risque?
Il y a toujours un petit risque, par exemple s'il y a un accident, mais je ne crois pas. Ni la Russie, ni les États-Unis veulent faire la guerre. Ce sera trop dangereux parce que les deux pays sont des puissances nucléaires. Non, on ne peut pas faire ça. Chaque côté comprend ça.
Maintenant, après l'Ukraine, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous pensez que Poutine a des ambitions qui vont au-delà de l'Ukraine ou bien c'est juste un message qu'il veut lancer à l'OTAN?
Je crois que dans son âme, il voudrait avoir tous les pays dans l'Europe de l'Est qui étaient avant sous l'influence de l'ancien soviétique. Il voudrait récupérer tous ces gens-là, mais ce sera impossible.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Quelles leçons les Africains devraient-ils tirer de l'invasion russe en Ukraine? De plus en plus d'Africains lancent en effet des appels pour une présence russe accrue sur le continent où, au demeurant, Moscou est en train d'étendre son influence. Nanit Talani a recueilli la réaction de notre confrère Ibrahima Cissé, consultant en radio communautaire à Conakry, en Guinée.
Il y avait déjà la prémonition que cela devait arriver, parce que avec toutes les velléités que Poutine présentait, on se préparait déjà à cette invasion. L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas du tout appréciée par beaucoup de pays africains, et cela donne aussi une grande leçon aux Africains.
Quelle est cette leçon que l'invasion russe en Ukraine peut donner aux Africains?
Ce qui se passe maintenant, je passe de commentaires. Si vous voyez même ce qui se passe chez nous en Afrique, c'est un peu compliqué parce qu'il y a partout les menaces djihadistes, il y a partout la Russie qui cherche à imposer sa suprématie. La dernière fois, sur vos antennes, j'ai évoqué le cas centrafricain, le cas malien. Alors si les pays africains ne s'organisent pas, la même situation peut arriver et ça pourra nous inquiéter, ça pourra nous causer un lendemain qui ne va pas être vraiment très, très bien pour nous.
Pour éviter ce mauvais lendemain, que doit faire l'Afrique?
l'Afrique doit se repositionner. C'est une question géopolitique, d'accord, mais si l'Afrique ne nous prend pas garde, ce ne serait pas bien pour nous. Il va falloir que nous-mêmes on se prépare, nous Africains. On a vu une fois l'OTAN s'allier derrière la France de Nicolas Sarkozy pour venir imposer quelque chose d'extraordinaire à la Libye, Gaddafi, et aujourd'hui c'est ce qui fait que rien ne va. Alors si les puissances ont la volonté, ils ont le droit de nous envahir, cela veut dire que nous sommes en mauvaise position et en mauvaise posture. D'abord, l'Afrique doit donner sa position. Les chefs d'État africains doivent donner leur position par rapport à cette invasion. Alors, si cela ne se fait pas, cela veut dire que nos chefs d'État africains vont rester à l'école de Poutine qui ne pense pas à la démocratie, qui ne pense pas au bien-être des autres, qui ne pense qu'à son intérêt géopolitique et à la suprématie de la Russie.
La Russie entretient des relations multidimensionnelles avec l'Afrique, surtout sur le plan économique. Quel impact le conflit entre Kiev et Moscou pourrait-il avoir sur ces relations?
La Russie, elle est très bien présente en Afrique, notamment chez nous en Guinée. La Russie est dans les mines en Guinée. Alors, économiquement, c'est vrai, il y a beaucoup de pays qui dépendent de la Russie. Mais les pays qui dépendent de la Russie ne sont pas des pays démocratiques, il faut le dire. Les pays démocratiques sont encore respectueux des principes démocratiques. Donc, sur le plan économique, cela ne présage pas un lendemain meilleur pour l'Afrique. C'est cela la vérité.
Et pour l'Ukraine ?
Maintenant, il va falloir que la communauté internationale s'allie derrière l'Ukraine. Sinon, il n'y a pas de lendemain meilleur pour ce pays. C'est vraiment regrettable, c'est déplorable qu'un pays souverain envahisse un autre pays souverain pour l'imposer sa suprématie.
Ibrahim Sissé, analyste, journaliste et consultant en radio communautaire en Guinée. Au pays du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a suscité de nombreuses réactions sur la toile, des internautes demandant au président Macky Sall de ne pas se mêler de cette crise européenne. Loin du virtuel, les avis sont beaucoup plus tranchés, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La toile s'est enflammée hier à la vue des premiers bombardements russes sur l'Ukraine. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est une situation à laquelle les dirigeants africains ne doivent pas se mêler. Mais en début d'après-midi hier, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé dans un communiqué co-signé avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. C'est une position logique pour Khadim Ngom.
Le monde, c'est un village planétaire. Ce qui se passe aux États-Unis, en Europe ou en Asie va répercuter directement en Afrique, raison pour laquelle... C'est un devoir moral de cette organisation intergouvernementale, en l'occurrence l'Union africaine, de pouvoir donner leur point de vue et aussi de mesurer aussi leur position eu égard même à cette géopolitique actuelle.
La situation actuelle pour Djibril Gueye est provoquée par les puissances occidentales et que selon lui, la posture de la Russie est tout à fait normale.
Les États-Unis et l'Union européenne ont poussé Kiev à adopter une attitude hostile à Moscou. Je pense que ça, c'est pas normal. Actuellement, si on laisse l'Ukraine rejoindre l'OTAN, tous les radars et les services militaires de l'OTAN sera face à Moscou. C'est ça le vrai danger. Et vraiment, je salue le leadership de Vladimir Poutine de pouvoir défier les Occidentaux. Je pense que si chaque président réagissait comme lui, bon, tous les peuples seraient vraiment contents, quoi.
L'Ukraine est un grand producteur de blé et de maïs. Loin des analyses diplomatiques ou géopolitiques, Aboussi, lui, s'inquiète des répercussions sur le marché et ses effets dans la vie quotidienne des Sénégalais.
Le Sénégal, comme vous le savez, depuis 3 semaines, nous avons connu une hausse des prix de la baguette de pain. Et cela, ce n'est pas seulement ici au Sénégal, c'est pratiquement c'est dans toute la sous-région ouest-africaine. Le blé, ça peut se répercuter sur les prix et causer quand même une certaine inflation.
La Russie est aussi parmi les grands fournisseurs mondiaux de gaz et de pétrole. Hier, le baril de pétrole a franchi la barre symbolique de 100 dollars. Même si la guerre lancée par la Russie en Ukraine est perçue par beaucoup de Sénégalais comme un conflit loin du pays de la Teranga, ils s'inquiètent aussi de voir d'éventuelles répercussions sur plusieurs secteurs du pays. C'est Dina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek, vainqueurs de la première édition. 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après match, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la voie de l'Amérique, que le meilleur gagne.
Pour changer de sujet, ouverture à Brazzaville de CARIA, un centre africain de recherche en intelligence artificielle, financé en partie par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce centre permettra aux étudiants du continent de mener des recherches sur plusieurs domaines de la vie et booster ainsi la production industrielle. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Sévra.
Le centre est logé dans les installations de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, près de Brazzaville. Ordinateur par-ci, laboratoire par-là, en plus des salles des cours, c'est ici que les étudiants africains travailleront pour simuler l'intelligence humaine à celle des machines. Pour le ministre congolais en charge des nouvelles technologies et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, Brazzaville devient le carrefour des technologies du continent. Il présente les performances du centre.
Le CARIA est équipé de deux salles à usage de laboratoire, de recherche, de pointe, avec des équipements informatiques de dernière génération permettant de suivre les enseignements en ligne via la plateforme e-learning. Il mettra à la disposition des apprenants trois types de programmes de formation dont les modules ont été transformés complètement en unités d'enseignement LMD, préparera les étudiants admis au centre à une maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données.
Les choses sont allées très vite depuis qu'il a été demandé au Congo de construire ce centre. Vera Singwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a expliqué que, alors que nous sommes en pleine pandémie de Covid-19, aucun centre sur le continent ne pouvait aider à faire avancer les recherches ou à disponibiliser des données pour l'Afrique.
Nous avons essayé de développer une logiciel pour comprendre un peu les déplacements des populations. Maintenant, il fallait utiliser l'intelligence artificielle. Sur le continent, nous n'avons pas pu trouver une boîte qui pouvait faire ces analyses pour nous. Nous avons trouvé deux à l'extérieur du continent qui nous chargeaient à peu près de 8,5 millions de dollars pour faire ces analyses. Alors, dans un petit groupe, nous nous sommes dit, mais pourquoi on va payer de 8,5 millions de dollars? Et on s'est dit, mais créons une centre de recherche, créons un cadre africain qui, dans le futur, va pouvoir nous permettre de nous retourner vers les étudiants, vers les jeunes africains, pour faire ces recherches.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'un tel centre peut apporter à l'Afrique et particulièrement aux jeunes Congolais? Elwin Gomo, formateur en communication digitale, répond.
Le Congo tarde encore à intégrer le numérique dans son système éducatif. C'est donc difficile pour bon nombre des jeunes de se faire une idée exacte du domaine avec les enjeux qui vont avec. Mais on parle ici d'un secteur qui devrait augmenter l'efficacité du travail de près de 40% dans certains pays. De quoi donc prendre ce secteur au sérieux? Et donc au lieu d'aller simplement faire des formations à l'étranger, les Congolais, ils auront l'opportunité donc de faire des formations sur place au Congo. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir de la planète.
En attendant de s'ouvrir sur le continent, le Centre africain pour l'intelligence artificielle doit se concentrer sur les étudiants de l'université de Kintélé. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seboudia et Eric Manirakiza. À la mise en onde, Fatou Kalala, Alimassi et Lionel Ronanira Gahima. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.